Senhor Primeiro Vice-Presidente do Comitê das Regiões, agradeço a forma muito cordial e rápida com que respondeu ao convite desta Comissão dos Assuntos Europeus para estar connosco a requerimento do deputado António Ventura, do Partido Social Democrata, para nos inteirar das políticas e das medidas que o Comitê das Regiões tem vindo a adotar como órgão consultivo relativamente ao enquadramento e ao contexto atual dos problemas que se põem às regiões, em particular às regiões ultraperiféricas. E, nesse sentido, a Assembleia da República, através da Comissão dos Assuntos Europeus, tem todo o interesse em ouvir o Sr. Primeiro Vice-Presidente, que sabemos que dentro de pouco tempo se vai converter em Presidente do Comitê das Regiões, em o ouvir sobre estas matérias. Pedimos desculpa pelo atraso no início da nossa reunião, que estava previsto para as 10 horas, mas temos hoje na Assembleia da República uma quantidade de reuniões com audições de membros do Governo e outras entidades nas restantes comissões parlamentares que exigem a presença dos deputados nessas comissões e que por isso tivemos que aguardar que estivessem disponíveis para estar a iniciar agora esta audição. O Sr. Vice-Presidente terá possibilidade de fazer agora uma intervenção inicial durante 20 minutos, claro que com tolerância. Depois haverá uma ronda de perguntas dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares por 5 a 8 minutos e com resposta individualizada por parte do Sr. Primeiro Vice-Presidente. Haverá uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar com resposta conjunta, se assim entenderem desejável os grupos parlamentares. Tenho notícia, exatamente porque há audições noutras comissões parlamentares, que não poderão estar presentes os senhores deputados que representam o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Assim, agradecendo mais uma vez a presença do senhor Karl-Heinz Lamberts e a equipa que o acompanha, composta neste caso por um elemento, dou a palavra ao Sr. Primeiro Vice-Presidente. Muito obrigada.
Madame la Présidente, honorable membre du Parlement portugais, permettez-moi tout d'abord de m'excuser de ne pas parler votre langue. Je ne suis ni en mesure de la parler, ni de vraiment la comprendre. Ce qui arrive parfois en Europe, sur ce continent tellement caractérisé par la diversité. Et les différences entre votre pays et le mien, la Belgique, il y en a. Je viens d'en expérimenter le premier, le soleil. Quand on arrive à Bruxelles, il pleut presque toujours. Ici, on est accueilli par un soleil splendide qui a tout de suite une influence sur l'état d'humeur dans lequel on se trouve. Et puis, mesdames et messieurs les parlementaires, nous partageons peut-être encore autre chose, à savoir le fait que le nom de notre capitale respective, Bruxelles d'une part, Lisbonne de l'autre, sont associés à des aspects importants de la politique et de l'histoire européenne récente. Et quand on dit « c'est pas notre faute, c'est celle de Bruxelles », tout le monde sait ce que ça veut dire. Et quand on parle du traité de Lisbonne ou de la stratégie de Lisbonne, parfois on est traversé aussi par quelques aspects ambigus. C'est vrai, dans nos capitales respectives, des moments importants de l'évolution de l'Union européenne ont été finalisés. Et pour ce qui en est de Bruxelles, Il est vrai aussi que ce Bruxelles est identifié par beaucoup de citoyens avec tout ce qu'on n'aime pas en Europe. À ce point que parfois, quand je suis à l'étranger, je ne dis pas tout de suite que je travaille à Bruxelles, parce que je veux d'abord savoir quel est l'état d'esprit des gens avec qui je travaille. Et néanmoins, l'Union européenne, c'est beaucoup plus que Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg. L'Union européenne, à mon avis et à ma conviction, c'est partout là où on vit. Et s'il y a actuellement tellement de difficultés en Europe, c'est peut-être parce que cette conviction que l'Europe, c'est nous tous, c'est ce que nous faisons chez nous, et pas ce que d'autres font à notre place, est une conviction et un sentiment beaucoup trop répandu, partiellement, hélas, aussi vrai, mais en tout cas à dépasser par autre chose. Et cette autre chose, pour moi, c'est très simple. Et c'est aussi, depuis que je fais de la politique, ça fait déjà presque un demi-siècle, une conviction. Le destin des Européens, des hommes et des femmes qui vivent sur notre continent, est un destin qui est commun, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et tous ceux qui croient qu'on va se sauver dans le 21e siècle par un repli, sur soi-même et un retour à des nationalismes comme ceux qui ont été créés au 19e siècle, tout cela, à mon avis, ils se trompent. Mais il y en a de plus en plus. Et il ne suffit pas de croire qu'on a raison et que les autres ont tort. Ce qu'il faut, c'est de convaincre, de discuter et de chercher en commun une voie vers l'avenir. Et au comité des régions, cette institution consultative qu'on a créée par le traité de Maastricht, qui est aussi l'endroit où on a inventé l'euro, ce comité des régions a peut-être ceci de particulier que c'est l'endroit où se rencontrent des responsables politiques locaux et régionaux dont la vie, dont le centre de vie n'est pas à Bruxelles ou ailleurs, mais chez eux, dans leur ville, dans leur région et dans leur village. Et c'est eux qui doivent être convaincus que coopérer en Europe, c'est quelque chose qui améliore leurs possibilités d'action et les conditions de vie de leur population. Et c'est eux aussi qui doivent avoir la conviction que ce qui se passe chez eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, trouve aussi le chemin jusqu'en Europe, pour que ceux qui décident en Europe, à savoir principalement nos chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen et la Commission, sont à l'écoute de ce qui se passe concrètement sur place. Il n'en est pas toujours ainsi, il reste encore un grand chemin à faire à ce niveau-là, et notre rôle comme comité de région, c'est un peu de promouvoir cette évolution et d'être un des acteurs de celle-ci. C'est pour cela que je suis chaque fois très heureux quand j'ai l'opportunité, comme aujourd'hui, d'être en contact avec des parlementaires nationaux ou régionaux ou des responsables de collectivités partout en Europe pour échanger avec eux sur leur manière de voir le devenir de l'Europe. Et j'espère que le temps qu'on passera aujourd'hui ici sera un moment fructueux où nous pourrons tous garder quelque chose qui améliorera les chances de réussite de l'Union européenne. On vient de fêter récemment les 60 ans de l'Union européenne. Il y a à peine 5 ans, cette Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix. Et lors d'un de ses derniers voyages comme président américain en Europe, Obama a dit toute sa conviction qui était de voir dans l'Union européenne une des plus importantes réussites de la deuxième partie du XXe siècle. Et je crois qu'il a raison. Et j'espère que son successeur s'inspirera un peu de cela, mais ça c'est une autre histoire. Une des raisons pour lesquelles je suis d'ailleurs content d'être aujourd'hui à Lisbonne et pas à Bruxelles, c'est que à Bruxelles, circuler aujourd'hui, c'est assez compliqué à cause de la visite du président américain. Sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, s'est construit quelque chose d'unique au monde. Et si vous vous rappelez qu'on a commencé avec l'acier et le charbon, donc avec les deux choses qu'il fallait pour faire de la guerre, et qu'on les a mis quelques années après la fin de la guerre ensemble dans la fameuse CECA, on peut vraiment dire que les pères fondateurs de l'Europe ont eu vraiment une vision. Et ils auraient presque réussi à ce moment-là, quelques années plus tard, de faire une Europe de la défense. Ça a échoué pour un certain nombre de raisons, mais c'était un des projets au début des années 50. Et puis il y a eu la création il y a 60 années et un ensemble d'élargissements. Élargissements auxquels, assez rapidement, votre pays, après une histoire très complexe, a adhéré, en consolidant ainsi d'une manière considérable la démocratie de votre pays. Et puis, il y a quelque chose qui est assez exceptionnel aussi, à savoir la disparition du rideau de fer. C'est un véritable changement de paradigme et il a eu aussi comme conséquence un élargissement de l'Europe, de l'Union européenne, d'une façon massive et consistante. Tout ça donnait au continent européen une perspective. Et partout au monde, on admire cette construction. Il suffit d'entendre ce que disent beaucoup de gens en Amérique latine, en Asie, en Afrique, de l'Union européenne, pour se rendre compte que c'est quelque chose qui est admiré. Et parfois, on se demande d'ailleurs s'ils connaissent vraiment l'Union européenne quand ils disent tellement de bien de celle-ci. Et pourtant, il ne faut pas être un grand visionnaire ou un observateur particulièrement averti pour constater que, depuis un certain temps, cette Union européenne se trouve dans une véritable situation de crise, même une multicrise. Et une crise dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on sait déjà vraiment comment elle va se terminer. Au contraire, si on m'avait demandé il y a une dizaine d'années que l'Union européenne pourrait un jour vivre une crise existentielle et être menacée de disparition, j'aurais dit c'est impossible. Si on me pose la question aujourd'hui, je répondrai d'une manière beaucoup plus prudente et circonstanciée. Et souvenez-vous de quelques éléments très récents. En Autriche, lors des élections présidentielles, aux Pays-Bas, lors des dernières élections parlementaires, qui viennent d'ailleurs de connaître déjà le deuxième échec pour la constitution d'un nouveau gouvernement hier soir. Pour les élections présidentielles en France, on voit qu'une partie toujours plus large de la population vote pour des politiciens qui critiquent pas seulement l'Union européenne, mais qui la mettent carrément en cause, qui veulent la faire disparaître. Et on se réjouit, par exemple, en Autriche, que le candidat anti-européen n'obtienne que 47% des voix. Vous vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, quasiment la moitié des voix. Au premier tour des élections françaises, des candidats de droite et un candidat de gauche qui étaient ouvertement anti-européens faisaient ensemble aussi presque 50% des voix. Donc il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer. Et si l'Union européenne veut réussir, elle doit vraiment se ressaisir et repartir. Nous avons, pour parler de ces crises que je n'approfondirai pas maintenant, la crise financière, économique et de l'endettement de l'État. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus ici, en rappelant simplement que c'est quelque chose qui a particulièrement frappé votre pays. J'ai assez de contacts avec des hommes et des femmes politiques de votre pays pour vivre un peu cette difficile période, pour avoir vécu un peu cette difficile période des négociations avec la Troïka, la menace d'une procédure en déficit, d'excès de déficit, qui vient d'ailleurs de se terminer il y a quelques jours aussi, pour savoir à quel point tout ça peut être pénible. Et je vois ailleurs en Europe, en Grèce évidemment, d'abord, mais aussi dans d'autres pays, comme même mon propre pays, des aspects très difficiles de cette crise financière et économique et d'endettement qui rend difficile la gestion publique et qui menace notamment la capacité d'investissement des collectivités territoriales pour des raisons liées aux critères du pacte de stabilité et de croissance en lien avec les normes budgétaires européennes. Comme si ça ne suffisait pas déjà. Nous avons aussi vécu en 2015 une énorme crise migratoire. Enfin, 2015, c'est pas exact. Elle existait avant, mais on n'a pas voulu voir ailleurs en Europe ce qui se passait, notamment en Grèce et en Italie, jusqu'au moment où tout s'est venu un peu plus haut vers le nord de l'Europe. Et on a vu à quel point cette crise perturbait le fonctionnement généralisé de l'Union européenne. On a vu aussi que ces valeurs européennes dont on parle tellement et dont on croit que c'est ce que nous partageons sont assez fragiles à certains égards, et notamment dans le contexte des problèmes des réfugiés, on a vu que les positions dans certaines parties de l'Europe n'étaient pas du tout compatibles avec celles défendues ailleurs. Et on a aussi vécu quelque chose qui semblait aussi impossible jusqu'il y a peu. Un pays membre, pas le moindre, la Grande-Bretagne, décide de quitter. Et même si on dit que le Brexit, c'est une chose, la relance de l'Europe avec les 27 partenaires restants, c'est une autre, il faut bien se rendre compte qu'on va passer beaucoup de temps dans les deux ans à venir à s'occuper des conséquences du Brexit, tant qu'on dont on aurait tellement besoin pour discuter en fait d'autres choses, à savoir de la relance de l'Union européenne. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. On est fragilisé, considérablement fragilisé. On voit aussi des dysfonctionnements et on voit des choses qui ne vont pas du tout, parce que si tellement de gens critiquent l'Europe, c'est pas parce que les gens ne comprennent rien, ça sont des technocrates qui disent ça parfois, c'est parce que les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner en Europe. C'est ça la vraie raison. Et c'est la responsabilité de tous ceux qui, en Europe, sont associés au processus de décision. Donc là, il y a vraiment un véritable défi, une nécessité urgente et indispensable de changement. Alors les uns disent: réduisons l'Europe, abandonnons cette idée, retournons aux États nationaux classiques. Et d'autres disent non, il faut relancer l'Europe, il faut la remettre sur les rails. Et je peux vous dire clairement, en ce qui me concerne, je suis intimement convaincu que c'est la deuxième alternative qui est la bonne, pour une raison très simple que je ne vais pas approfondir non plus. Si on prend objectivement tous les grands défis du début du XXIe siècle, du changement climatique jusqu'à la paix, jusqu'aux grands enjeux de la mondialisation ou la création de sociétés plus justes, il n'y a aucun de ces enjeux qu'un État national tout seul peut encore réussir. Objectivement, on ne réussira que si on arrive à le faire ensemble, au moins à une dimension européenne. Et si l'on est ainsi, alors la vraie question est évidemment, mais comment relancer cette Europe ? Et les idées ne manquent pas. Nous avons le processus de Bratislava que les chefs d'État et de gouvernement ont lancé lors de la présidence de la République slovaque. Nous avons les résolutions, les trois résolutions du Parlement européen sur le devenir. Mais regardez les majorités avec lesquelles ces résolutions ont été votées et vous allez tout de suite voir à quel point c'est controversé. Et puis, il y a le livre blanc de l'Union européenne, de la Commission, avec les différents documents qui concrétisent ces différentes options en termes de politique sociale et de globalisation. Les documents viennent de sortir, les trois autres vont encore venir. Là aussi, on voit qu'il y a vraiment plusieurs options possibles, envisageables, et il faut le plus vite possible arriver quelque part à les finaliser. Bien sûr, on ne finalisera pas grand-chose avant les élections parlementaires en France et en Allemagne. Mais finalement, il y a toujours quelque part des élections en Europe. On ne peut pas attendre toutes les élections nationales non plus avant d'agir. Mais objectivement, je crois que ces deux élections sont assez importantes. Et j'ai beaucoup d'espoir que la prochaine déclaration sur l'état de l'Union que M. Juncker soumettra au Parlement européen en septembre de cette année-ci sera alors quelque chose de plus volontariste. Il a très intelligemment créé cinq alternatives. Il a dessiné cinq alternatives, sans se prononcer trop sur ce qu'il trouve bien et mauvais. Mais il faut, dans une prochaine étape, indiquer un peu le chemin vers où on pourrait dégager un consensus. Et pour le faire, je crois qu'il faut se ressaisir et revenir à quelques aspects fondamentaux. Et la déclaration de Rome le fait d'ailleurs assez bien. Il faut d'abord savoir sur quel objectif on pourrait être d'accord en Europe pour découvrir un peu quels sont les éléments qui constituent, je dirais, notre ADN européen. La paix, les valeurs européennes, la diversité en Europe comme un atout et non pas comme une menace, le bien-être de tout le monde et pas seulement d'un petit groupe de privilégiés, une Union européenne forte qui contribue substantiellement à plus de justice sociale, à plus de performance économique et à plus de solidarité. Trois choses qui peuvent être antagonistes, mais qui, dans le modèle d'État social démocratique européen, forme cependant un tout, un équilibre. C'est ça ce qui nous distingue, à mon avis, du reste du monde. Ce modèle-là, malgré toutes les différences et les nuances, ça c'est le point de départ. Et puis, il faut savoir comment on y arrivera. Est-ce qu'on aura une Europe à plusieurs vitesses ? Sur cette question, les sondages d'Eurostat sont intéressants parce qu'ils indique aussi des différences. Prenons Belgique et Portugal. En Belgique, 60% des gens disent oui, il faut une Europe à plusieurs vitesses. Au Portugal, plus que 60% des gens disent non, il ne faut pas ça, il faut aller en commun. Moi, je dirais, tout ça doit être discuté. Et l'essentiel, c'est peut-être pas là où les vitesses qu'on met en marche. L'essentiel, pour moi, c'est deux choses. c'est d'abord qu'on marche dans la même direction. Ça, c'est essentiel. Et c'est ça qui manque un peu pour l'instant. Ce consensus sur la direction que doit prendre l'Union européenne. Et si tout le monde ne sait pas démarrer avec tout au même moment, avec la même rapidité, en toute hypothèse, il doit être à chaque moment possible pour tout le monde de rejoindre le train, de ressauter sur le train pour prendre une image. Il ne faut pas qu'il y ait des exclus et surtout, il ne faut pas qu'il y ait une Europe avec différentes catégories de membres. Et là, on doit assez vite, je crois maintenant, pouvoir démarrer. Et je terminerai, si vous le permettez, en respectant, j'espère, mon temps de parole, par identifier brièvement, par des mots-clés plutôt que par des exposés en détail, quelques chantiers qui me semblent indispensables à ouvrir et à réussir. Un chantier, c'est le fonctionnement de l'Union européenne. C'est plein de dysfonctionnements. Il y a des déficits démocratiques, il y a tout ce que vous voulez. Il faut améliorer ça. Mais je suis convaincu qu'il ne faut pas passer 100 ans maintenant à discuter que des histoires institutionnelles. Surtout pas de celles qu'on ne saura changer qu'avec l'unanimité. Parce qu'alors, c'est vraiment le chat qui se mord dans sa propre queue. Ça va tourner en rond. Autre chantier du même genre, la subsidiarité. Subsidiarité qui est d'ailleurs un des sujets que votre Parlement traite très régulièrement et qui se traite aussi dans les dialogues entre le Parlement européen et les Parlements nationaux. L'Europe est un géant quand il s'agit de régler les détails. Et c'est un nain quand il faut trouver des solutions aux grands enjeux de notre monde. Alors, pour faire de la blague un peu, si le soleil est assez bas ou bas assez, même un nain fait un long ombre, mais c'est pas ça le destin de l'Europe. Il faut que par la subsidiarité nous remettons un peu les choses en place et que nous redistribuions autrement les responsabilités entre les différents niveaux de cette fameuse multi-level governance, l'Europe, les États, les régions, avec toute la diversité qu'il y a au niveau des structures régionales en Europe. Là, le Portugal et la Belgique sont vraiment deux exemples très différents de décentralisation régionale et enfin le niveau communal. Puis, il y a aussi une manière urgente, la politique de migration. C'est un enjeu fondamental de l'Union européenne et c'est un enjeu où on n'a pas réussi jusqu'à présent. Et si on ne réussit pas, on va aller de plus en plus vers des graves difficultés. C'était un grand chantier. C'est la politique aux frontières extérieures, c'est la politique de voisinage, c'est aussi l'application des règles de Dublin. C'est la solidarité, c'est la bonne intégration. Et en tout cas, les collectivités territoriales sont fortement concernées par cela parce que c'est eux qui vivent ça sur le terrain. Puis, il y a un autre enjeu, c'est la sécurité. Rien de plus grave que des populations qui se sentent en insécurité. Et il faut d'ailleurs quand même dire un mot aussi, je crois, de ces terribles attentats qui viennent d'avoir lieu à Manchester avant-hier. C'est vraiment dramatique. Et là, on voit aussi que partout en Europe, on est menacé. Moi, je n'aurais jamais cru qu'à quelques mètres de mon bureau à Bruxelles, un jour, une bombe allait sauter dans une station de métro. Et encore, chaque fois quand j'y passe, ça fait l'impression. Ou à l'aéroport de Bruxelles. C'est la même chose, mais c'est dans d'autres villes aussi. Toutes les villes l'ont été d'une façon ou d'une autre concernés ou en tout cas sont menacés. Là, il faut aussi réussir par la coopération. Là, il y a un grand aspect de coopération insuffisante entre les services de sécurité en Europe. Nous avons les grands enjeux des changements technologiques. Et là, il y a des énormes choses à faire. Et je suis d'ailleurs toujours très admiratif quand je viens ici à Lisbonne et je vois à quel point vous parvenez à attirer vers vous des jeunes inventeurs, des gens qui créent des entreprises dans ces nouveaux métiers de la quatrième révolution industrielle. C'est fascinant, c'est important et c'est nécessaire. Mais c'est aussi un enjeu européen. Puis, il y a la politique de cohésion. Ça, c'est pour moi, et c'est pour ça que je la mets à la fin de mon intervention, ça, c'est vraiment la preuve décisive du moment. Dans les scénarios de Juncker, il y a un scénario qui prévoit qu'on supprime la politique de cohésion. On dit, mais ça, les États vont s'occuper eux-mêmes. On ne fait plus ça, on s'occupe uniquement du marché unique. Ça, ce n'est plus, pour moi, l'Europe pour laquelle je me bats. Je crois qu'une politique substantielle et importante de cohésion est une des pièces maîtresses de la politique européenne du futur. Et ça vaut à la fois pour la cohésion économique, pour la cohésion sociale et pour la cohésion territoriale, et particulièrement en ce qui concerne la cohésion territoriale, aussi la coopération transfrontalière et interrégionale. Ça, c'est un enjeu fondamental, et pour le moment, le comité des régions se focalise là-dessus. Nous voulons faire une vraie alliance des amis, c'est un peu pathétique, des amis de la politique de la cohésion. Nous venons, il y a quelques jours, d'adopter un important avis sur notre vision des choses, et nous allons faire beaucoup d'efforts maintenant dans les mois et années à venir pour ancrer cette politique de cohésion encore d'une façon meilleure que ce n'est qu'à aujourd'hui dans la politique de l'Union européenne après l'année 2020. Là, il y a un grand travail à faire et pour moi, ce travail tourne autour d'un triangle. Nous avons d'une part une politique de cohésion modernisée, évaluée. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Il y a des abus au Portugal, en Belgique aussi. Moi, je connais surtout ceux de Belgique et ça me suffit déjà. Mais il faut mettre de l'ordre parfois dans tout ça. Ça, c'est vrai aussi. Il faut adapter aussi cette politique aux nouveaux enjeux de la vie au début du 21e siècle. Mais il faut la maintenir comme une politique forte. Et puis, il faut un lien très étroit entre cette politique et la politique d'investissement du fonds Juncker, donc de l'EFSI. Mais il ne faut pas céder à cette idée que certains disent officiellement ou inofficiellement, on prend de l'argent de la politique de cohésion et on la met dans la politique du fonds Juncker. Ça, il n'est pas question. Il faut chercher autrement cet argent et il faut faire des joints et des synergies intelligentes. Et la troisième dimension est une qui est particulièrement importante aussi pour votre pays, mais aussi pour le mien et pour beaucoup d'autres, et surtout pour les collectivités territoriales. Là, parfois, les régions et communes ont des visions différentes de celles de leur gouvernement. C'est la flexibilité dans l'application du pacte de stabilité et de croissance. Les normes européennes de budget sont des normes qui mettent en danger la capacité d'investissement des collectivités territoriales si elles sont appliquées dans un contexte trop rigide de la norme de déficit budgétaire et de l'endettement. Alors ça conduit au fait que vous ne pouvez plus utiliser les fonds européens parce que le cofinancement que vous devez faire agrandit tellement votre déficit que vous ne réussissez pas, ou bien vous avez des sanctions que l'Union européenne exerce contre votre pays et supprime, et qui ont pour effet de supprimer les moyens de cohésion. Là, il faut un équilibre. C'est très difficile et c'est très politique, mais c'est essentiel. Et pour moi, c'est le test que l'Europe doit maintenant réussir. Et pour cela, il faut changer aucun traité et aucune loi. Il faut optimaliser une politique de cohésion forte, une politique d'investissement du fonds Juncker vraiment innovateur, avec des nouveaux instruments financiers, et une certaine flexibilité dans l'application des normes budgétaires et du pacte de cohésion, de stabilité et de croissance. Voilà ce qui, à mon avis, sont les les enjeux et les défis du moment. Et au comité des régions, nous essayons un peu de canaliser ce débat, de focaliser. Et nous avons lancé une grande opération « Reflecting on Europe », des idées pour l'Europe. Nous voulons le dialogue avec les responsables territoriaux. Nous voulons aussi initier et accompagner, en tout cas donner de l'ampleur au dialogue citoyen qui se fait à de nombreux endroits en Europe. Parce que l'euroscepticisme ne peut être combattu efficacement que par un mouvement qui est aussi très large et qui parvient à toucher la tête et le cœur des citoyennes et des citoyens européens. Et c'est cela qui est notre objectif et notre activité des prochains mois et années. Et je serai très heureux de pouvoir échanger sur tout cela avec vous maintenant.
Merci beaucoup, Monsieur Karl-Heinz Lamberts. C'est l'enjeu du moment de l'Union européenne que vous avez clarifié très bien. Maintenant, nous avons les questions des membres. La première question, c'est du Parti social-démocrate. Le membre qui va poser les questions seront deux, n'est-ce pas, les deux membres. António Costa da Silva et António Ventura. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões. É um enorme prazer tê-lo aqui connosco. É um enorme prazer poder ter aqui a voz, uma das vozes das regiões. E isso para nós, portanto, é um tema muito importante, até porque nós temos aqui duas matérias muito distintas e vamos tentar abordá-las. Tenho aqui o meu colega António Ventura, que vai falar sobre as regiões ultraperiféricas, e no meu caso em concreto irei falar sobre as regiões de convergência, portanto as regiões que têm mais dificuldades, digamos assim. Eu queria deixar aqui uma nota, porque há dias houve uma declaração muito recente do Presidente da Delegação Portuguesa do Comitê das Regiões, que nos parece importante, que tem a ver precisamente com a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo. Esta é uma matéria importante que nos deve dar orgulho a todos os portugueses e também dar nota na referência que ele fez que 2014 foi o ano marcante. Mas para nós, na nossa perspectiva, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e também 2016 foram anos importantes para esta saída, para que Portugal possa ter mais liberdade e as regiões também, mas também mais responsabilidade. Devemos sair precisamente de onde nunca devíamos ter entrado. Entrando aqui precisamente no tema que nos traz hoje aqui, eu entrava na nova programação dos fundos europeus, naquilo que está a ser desenvolvido e na perspectiva das políticas de convergência, dos resultados dessas políticas. A Europa optou por uma estratégia da Europa 2020 em quatro grandes domínios, do crescimento económico, da competitividade, da coesão territorial, da luta contra a pobreza e desigualdade e também contra no combate às alterações climáticas. Estas são matérias estruturadas pela Europa, com objetivos concretos a 2020. Portugal também, e todos os outros países da União Europeia, estão inseridos nesta agenda e, obviamente, as regiões, com os seus programas operacionais regionais, também contribuem para estes objetivos temáticos. Na minha perspectiva, foi a melhor programação de sempre que foi criada na União Europeia. E dar a nota de que os conselhos regionais das diferentes regiões aprovaram com grande maioria, ou quase sempre por unanimidade, os documentos estratégicos para as diferentes regiões. Dou exemplo dos diagnósticos perspectivas regionais, os planos de ação regional e uma matéria muito importante e que merece ser aprofundada, nomeadamente as estratégias regionais de especialização inteligente. Matéria nova e abordante. Aliás, são todas elas condições ex-ante nesta nova programação de fundos comunitários. Portanto, na nossa perspectiva, aquilo que veio dar do acordo de parceria é uma nova dinâmica, uma nova abordagem, um novo olhar sobre a nova programação, precisamente, para as regiões de convergência. Nestes objetivos, portanto, estão muito bem identificados qual é o trabalho que cada uma das regiões deve contribuir com indicadores muito precisos para que se consigam resultados de desempenho significativos. É essa a expectativa que nós temos nesta nova abordagem. E que essa avaliação de desempenho nos possa permitir dar um pulso significativo para podermos contribuir para os objetivos que identificámos nas nossas regiões. Dou alguns exemplos: incrementar em 15% o PIB regional, portanto aumentar o PIB, integrar em 2020 o grupo das regiões classificadas como Innovation Follower, aumentar a percentagem da população entre os 30 e 34 anos com ensino superior, reduzir o abandono escolar até os 10%, aumentar a percentagem da população adulta, portanto, com aprendizagem ao longo da vida, etc., etc. São matérias que para nós são importantes e que devem ter uma abordagem concreta nesta nova programação. Por isso, eu deixo aqui algumas questões, até porque já estamos a entrar numa fase da nova programação. Como é que o Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões vê esta nova abordagem de convergência dos fundos, sempre de encontro ao crescimento económico, à coesão, às melhores condições e ao emprego mais qualificado e de combate à desigualdade, mas também às condições climatéricas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Obviamente, como o tempo é limitado, permita-me entrar do global ao específico. E o Sr. Vice-Presidente falou teve duas referências muito importantes. E o mundo dos grandes desafios passa por manter e aprofundar a coesão e encontrarmos sinergias inteligentes. Eu sou de uma região ultraperiférica e um dos instrumentos financeiros que mantém a coesão é o programa POSEI. O programa POSEI aporta anualmente cerca de 77 milhões de euros no caso dos Açores e cerca de 20 milhões de euros no caso da Madeira. Tem sido um programa de sucesso, mas os programas POSEI estão esgotados, quer financeiramente, quer no seu âmbito. Ou seja, é preciso avançar para melhorar esta coesão e reconhecer as dinâmicas da solidariedade e da subsidiariedade, é preciso avançar para novos POSEIs. Um POSEI da questão dos transportes, um POSEI de complementariedade, um POSEI interregional. Só assim, uma das dimensões da União Europeia, que é as regiões ultraperiféricas, mantém a sua alma. Se efetivamente é importante manter esta coesão, é importante manter também na União Europeia esta mesma diferença. E se nós não tivermos um esforço conjunto de reivindicativo, um esforço de acerto naquilo que são as nossas posições, não é possível avançarmos para, como dizem muito bem, voltar a pensar bem e arrancar. São palavras suas que é importante assinalar. E era este alerta que queria deixar neste momento, que é um alerta das regiões ultraperiféricas. Obviamente que as regiões ultraperiféricas têm várias vantagens, mas têm vários constrangimentos. Um investimento no programa POSEI não é um investimento nos coitadinhos, é efetivamente um investimento na União Europeia, nos benefícios que as regiões ultraperiféricas podem trazer, no aspecto geoestratégico, na visão geopolítica, na questão de sermos um laboratório de referência e um laboratório no meio do Atlântico, na questão da preservação das espécies. Enfim, nós temos várias dimensões que podem contribuir para enriquecer a União Europeia. E queria deixar efetivamente este tema específico, mas muito importante, de aspecto existencial para a coesão das regiões ultraperiféricas com a União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vous avez la parole, Monsieur le Vice-Président, pour répondre. Merci.
Oui, mais vous confirmez par vos questions ma conclusion qui était de dire le test décisif hic et nunc, c'est la politique de cohésion. C'est tout à fait clair. Si on échoue là-dedans maintenant, pour quelque raison que ce soit le prétexte des moyens réduits à cause du Brexit, que ce soit des désaccords sur d'autres aspects parmi les États soi-disant contributeurs et ceux qui reçoivent, alors on a vraiment échoué dans un élément fondamental. Alors, pour pouvoir réussir ce défi, il faut, à mon avis, progresser de manière systématique. Il faut, ensemble avec les autorités nationales et régionales et la Commission, particulièrement la Direction générale de la politique régionale et urbaine, évaluer honnêtement ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et il faut exagérer ni dans l'un ni dans l'autre sens. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mal non plus. Donc, il faut faire une évaluation ouverte avec l'objectif qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement pour le futur. Ça, c'est un premier travail. Le deuxième travail, c'est de commencer déjà maintenant à élaborer la programmation de la période après 2020. Même si on n'a pas encore tous les éléments, mais il faut que la qualité des projets et la valeur ajoutée qu'on apporte par ces projets soit le résultat d'une longue préparation sur le terrain avec les acteurs du terrain. Et là, la valeur ajoutée se mesure différemment suivant les circonstances dans lesquelles je me trouve. Moi, je suis partisan, tout comme le comité des régions, d'une politique de cohésion dans laquelle toutes les régions ont un rôle à jouer. Les régions en restructuration, les régions en transition, les régions où on est déjà un peu plus loin. Mais chacun doit fournir une valeur ajoutée qui est adaptée à sa situation. Je ne mesure pas le succès d'une politique européenne dans une région périphérique de la même façon et avec les mêmes paramètres et indicateurs que je le fais pour un projet où le Land de Bavière en Allemagne ou la Flandre en Belgique, pour prendre deux des plus riches, sont impliqués. Il faut une vraie valeur ajoutée, mais adaptée à la situation de départ. Et c'est sur cette base-là qu'il faut construire les projets futurs. Ça, c'est les devoirs que chacun doit faire chez soi. Et puis, il y a le grand débat politique européen sur le devenir de la politique de cohésion, qui est double. C'est d'abord un débat sur les règles, les critères, les mécanismes de contrôle, la débureaucratisation de cette politique, parce qu'il faut quand même se dire aussi, et j'en ai vu assez dans ma vie, de phases de programmation. À chaque phase de programmation, on promet moins de bureaucratie. Et le résultat, c'est chaque fois après plus de bureaucratie. Mais il ne faut pas dire que c'est uniquement à cause de l'Union européenne. Là, l'Union et les États se partagent la responsabilité. Et si on veut aller plus dans le détail, il faut devenir technique, mais c'est vraiment très important. Il faut aussi se poser des questions plus iconoclastes. Je prends une que le directeur général de la commission de la direction générale a soulevée récemment à une réunion avec tous les ministres des affaires européennes des Länder allemands, des 16 Länder allemands où j'ai pu assister. Est-ce qu'il ne faut pas regrouper un peu différemment les différents moyens structurels? Par exemple, la politique de cohésion est le deuxième pilier de la politique agricole. Petite question, mais avec beaucoup de dynamite derrière. Mais il faut être prêt à discuter de tout ça pour trouver les meilleures solutions à la fin. Et puis, il faut un grand débat final sur les moyens. C'est vrai qu'on aura moins de moyens après le départ des Britanniques. C'est vrai aussi qu'il faut mobiliser de nouveaux moyens européens pour certaines politiques urgentes. Je ne prends qu'une seule, la politique le long des frontières extérieures en matière de migration. Il faut investir là-dedans. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut raisonnablement créer une Europe forte avec des moyens financiers limités à 1%, à environ 1% du produit intérieur brut de l'Union européenne? C'est quand même un peu particulier comme ambition. Mais probablement, on ne changera rien à ça maintenant. Mais à terme, je crois que ça doit changer. Et là vient le débat alors sur les moyens propres de l'Union européenne, qui est un autre grand chantier. Mais pour les moyens dont on a besoin maintenant, il faut vraiment qu'ils soient disponibles et qu'on se batte pour les maintenir aussi dans les moments finaux de ces négociations sur le prochain cadre financier à moyen terme. Parce que c'est là que ça se décide, et ce sont des nuits dans le Conseil des ministres ou le Conseil européen où il faut extrêmement être prudent pour sauvegarder un peu tout cela. Et là, je crois qu'on est On est vraiment dans un combat très important et c'est tout à fait clair que les régions périphériques, ultra-périphériques, sont un enjeu tout particulier, même s'ils sont vus individuellement toujours un cas isolé, mais il faut les voir ensemble aussi, alors ça devient un peu plus fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des associations qui défendent aussi ces intérêts. Et c'est vrai que l'État portugais est particulièrement concerné, par deux de ces statuts-là, de manière très concrète.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho e depois o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, agradecer a sua vinda aqui a esta comissão num momento particularmente interessante a nível europeu, quer no âmbito do debate do futuro do projeto europeu, quer também no âmbito da nova comunicação da Comissão para as regiões ultraperiféricas, que será apresentada até o final deste ano. Eu, primeiro de tudo, gostaria de efetivamente reconhecer a atenção particular que o Comitê das Regiões tem tido para com as especificidades e a problemática das regiões ultraperiféricas e tinha aqui um conjunto de três questões para lhe colocar no âmbito das regiões ultraperiféricas. A primeira, e reconhecendo este empenho do Comitê das Regiões, aliás, os próprios parceiros do Comitê têm evidenciado a necessidade de um maior envolvimento das autoridades das regiões ultraperiféricas na preparação das políticas europeias e defendido também a manutenção de programas de apoio como o POSEI Agricultura e o POSEI Pescas. Eu gostaria de reforçar aqui a importância que estas medidas têm tido para o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas e, no caso particular, dos Açores. De facto, dando aqui o exemplo do POSEI Agricultura, ele tem sido determinante para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores e tem contribuído efetivamente para reduzir as assimetrias que, em particular, este sector tem naquela região. Mas também aquilo que nós temos constatado é que tem havido um aumento da produção agrícola, em particular nos Açores, e isso tem feito com que os apoios existentes tenham vindo a ser reduzidos em termos de distribuição pelos vários produtores. E, portanto, há aqui a necessidade de um reforço, quer dos programas, quer também das verbas que os programas atuais dispõem. E a importância destas medidas específicas tem sido reforçado quer pelo Comitê, quer também pela Comissão. E aquilo que eu gostaria de questionar é que papel terá o Comitê das Regiões no âmbito desta nova comunicação que será apresentada pela Comissão até o final do ano e se o Sr. Vice-Presidente considera que este compromisso e que esta recomendação de reforço dos programas, quer das verbas para o POSEI Agricultura e POSEI Pescas serão possíveis continuarmos a defender e que seja possível implementar-se, tendo em conta, como o Sr. Vice-Presidente também já referiu, a União Europeia enfrenta várias pressões, quer a nível do Brexit, quer com a crise dos refugiados, e portanto gostaria também de perceber até que ponto considera que a Comissão estará aberta a estas propostas, tendo em conta a pressão orçamental. E gostaria de colocar só mais duas questões. Uma, tendo em conta que surgiu aqui, que se prende aliás com o reconhecimento no âmbito da política de coesão de um estatuto específico para as ilhas, como regiões de maior fragilidade decorrente da situação geográfica e naturais limitações, e tendo em conta que nem todas as regiões ultraperiféricas são ilhas, até que ponto é que a implementação desta sugestão poderá reforçar aqui o duplo estatuto das regiões que são ultraperiféricas e que são ilhas e em que é que o acesso aos fundos poderá também ser facilitado com o reconhecimento desta particularidade enquanto ilhas. E, por fim, colocava também uma questão sobre o balcão único para as ilhas, que foi uma das recomendações do Comitê, e, portanto, se considera que será uma realidade a breve trecho a criação deste balcão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem-vindo, Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões ao Parlamento de Portugal. Eu queria fazer algumas perguntas muito rápidas pelo curto tempo que tenho, mas muito concretas. Nós tivemos acesso ao parecer do Comitê das Regiões relativamente ao programa, à programação pós-2020, não é? Nesse parecer, há algumas coisas que eu gostaria que fosse melhor explicado por parte do Sr. Vice-Presidente. Uma delas tem a ver com a circunstância de todos nós sabermos que o Comitê das Regiões participou ativamente naquilo que foi a reforma do programa 14-20, não é? E nessa participação esclareceu e definiu que seria muito útil para a concretização desse programa a definição de quatro ideias temáticas em que o investimento fosse prioritário. E, portanto, essa rigidez com que foi colocado as decisões de investimento, a primeira pergunta é se, de alguma forma, prejudicaram a forma como as regiões utilizaram os meios financeiros. A segunda questão é por que razão é que agora, com a análise do parecer do pós-2020, o Comitê das Regiões sugere uma coisa ao contrário, que é flexibilidade no investimento e na forma como esse investimento é feito, no sentido de ultrapassar eventuais problemas da crise económica que algumas regiões possam ter. A segunda pergunta que queria referir tem a ver precisamente com a questão do financiamento. O parecer do pós-2020 do Comitê das Regiões não sugere mais nenhum aumento do financiamento, sugere pelo menos a manutenção do financiamento. A pergunta é se isto não é um objetivo pouco ambicioso, tendo em conta a própria realidade e as próprias palavras do Sr. Vice-Presidente agora nesta mesma intervenção. Como tenho pouco tempo, queria fazer uma última pergunta que me parece muito importante e que pedia uma resposta o mais concreta possível por parte do Sr. Vice-Presidente. Tem a ver com aquilo que também está plasmado no parecer do Comitê das Regiões para a programação pós-2020 e que tem a ver com a questão sobre os critérios utilizados para a distribuição dos fundos. Sabemos que o PIB per capita é, obviamente, um critério relativamente robusto, porque é o mais consensual na União Europeia, mas também sabemos que muitas regiões ficam prejudicadas com a utilização desse critério. E eu queria dar um exemplo em particular que tem a ver com a região autónoma da Madeira, uma região portuguesa, ultraperiférica, que quando a discussão dos fundos europeus e quando se contabilizou aquilo que era o seu critério de PIB per capita, tinha um PIB per capita próximo de 90% da média da União Europeia. Ora, depois da distribuição dos fundos, ou seja, em 2013 já os fundos estavam distribuídos, o PIB per capita da Madeira caiu mais de 20%, foi o maior tombo do PIB per capita na Europa e fez com que a Madeira passasse para uma média da União Europeia abaixo dos 75% da média da União Europeia, ou seja, passasse a região de coesão e não a região fora da coesão. Ora, nós estamos hoje perante uma situação paradoxal, é que temos uma região que está abaixo de 75% da média da União Europeia, mas que tem fundos de região rica e se compararmos aqui as duas regiões, a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira, que estão separadas por um ponto percentual do ponto de vista desta média, a região autónoma dos Açores tem 73%, a região autónoma da Madeira tem 74% da média da União Europeia, a região autónoma dos Açores tem o dobro dos meios financeiros da Madeira. As perguntas são duas. A primeira é se alguma vez as autoridades regionais, a região autónoma da Madeira, colocou esta questão no Comitê das Regiões, de maneira a poder encontrar uma forma para ultrapassar esta singular situação e prejudicial para os habitantes da região autónoma da Madeira. E a segunda pergunta é se não acha que estão criadas as condições para que haja uma fórmula, se preferir, para que no quadro da reprogramação dos fundos europeus seja possível compensar regiões como a Madeira, que teve um tombo tão grande, foi mesmo o maior da Europa, no que diz respeito ao seu PIB e com isto ficou largamente prejudicada com aquilo que é a distribuição dos fundos e isso aconteceu, como é do conhecimento público, por uma mera alteração estatística. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Tem agora a palavra o senhor vice-presidente do Comitê das Regiões para a resposta.
Oui, je veux faire deux remarques préalables, très courtes. Je constate ici avec grand intérêt que, au-delà des différences politiques, il y a une grande convergence pour la défense des situations dans les régions périphériques. Et ça, c'est un peu un secret de succès. Ça vaut aussi pour le travail au comité des régions. Il faut s'allier au-delà des clivages politiques pour arriver à convaincre les décideurs de la bonne cause qu'on défend. Ça, c'est très important. Et c'est aussi ce que nous faisons chez nous, au comité des régions, quand nous parlons des avis sur la politique de cohésion. Très souvent, nous avons des avis quasiment unanimes, alors que nous avons aussi tout le spectre des forces politiques en Europe, un peu chez nous. Donc là, on est vraiment tous ensemble convaincus que c'est important. Alors, deuxième remarque préalable, en posant des questions vraiment très précises et méticuleuses, vous savez sans doute autant que moi que je ne vais pas vous donner des réponses aussi précises aussi, pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas le comité des régions qui décide, mais nous donnons des avis. Et deuxièmement, ce n'est pas encore le moment de répondre définitivement à ce genre de questions précises. Et troisième argument, c'est je suis trop longtemps dans la politique pour savoir qu'un homme politique qui répond d'une manière trop concrète à une question très précise, il risque de se revoir dans quelques temps, rappelé en disant « Toi, tu as dit autre chose il y a 2 ans, qu'est-ce que tu as fait là-bas » Ça, c'est pour l'introduction. Alors, sur le fond, s'il y a une chose dont vous pouvez être certain, vous qui défendez les régions périphériques, c'est que vous aurez le comité des régions à vos côtés. Et là, je ne raconte pas des choses de circonstances pour vous faire plaisir. Je peux me référer à ce que nous avons fait dans le passé. À chacune des 3 phases de programmation à laquelle moi j'ai assisté personnellement en comité des régions au moins, il y a eu toujours une très grande solidarité pour les intérêts et pour les situations particulières dans les régions périphériques. D'ailleurs, pour la politique régionale, en général, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes opposés toujours, avec un succès mitigé, contre le fameux principe de conditionnalité, qui veut que l'Union européenne peut arrêter les paiements pour les fonds structurels si un État ne réussit pas au niveau, par exemple, des critères de convergence, parce qu'alors là, on punit, de notre point de vue, les gens qu'il ne faut pas punir. Mais ça, c'est un autre aspect de cette question-là. Alors, Madère, les Açores, c'est évidemment les cas emblématiques pour le Portugal, mais ce ne sont pas les seules situations, et c'est heureusement pas les seules situations, parce que si vous étiez les seuls périphériques dans l'Union européenne, ça serait encore plus difficile de défendre leurs intérêts. Il faut s'associer avec tous les autres ailleurs en Europe qui se trouvent dans une situation semblable, et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos travaux qui vont suivre maintenant, le premier avis qu'on a fait, on va aller toujours plus dans le détail. On a été très fiers d'être rapides maintenant avec notre avis, qui est quand même déjà assez substantiel, mais c'est évidemment le début, c'est la première prise de position que nous faisons, un peu en cadrant le tout. Nous n'avons pas voulu aller maintenant trop dans les détails, parce qu'il faut aller à chaque étape avec les détails qu'il faut, sinon on risque de s'affaiblir. Et en tout cas, je vous invite à nous communiquer tous les aspects particuliers que vous avez sur vos situations particulières pour qu'on puisse les intégrer à chaque étape de notre réflexion, de nos travaux, et notre commission qui s'occupe de ça et le rapporteur sur la politique de cohésion seront très attentifs, tout comme nos services, à intégrer tout ça de la meilleure façon. Évidemment, on va aussi discuter parfois. Je ne vous promets pas qu'on est toujours d'accord avec tout à 100% ou même à 200% ce que vous demandez, mais vous pouvez être en tout cas certain que nous avons une sensibilité très particulière pour ces situations un peu périphériques, parce que c'est justement ça la cohésion. C'est de ne n'oublier personne, de laisser personne à côté, mais de faire le nécessaire pour que les choses tiennent ensemble. Et là, il y a des aspects très compliqués avec, je dirais, un peu les effets statistiques. Vous avez fait la différence avec le PIB, Madère, Azores, qui change pour un tas de raisons à des moments déterminés. Suivant ce qu'on prend, le résultat est un peu étonnant. Donc là, il faut trouver des moyens d'être le plus près possible de la vraie réalité. C'est ça qui est important. Sachant qu'une réalité est toujours photographiée à un moment déterminé et ça évolue aussi. Mais là, il faut trouver les bonnes formules. Et si j'ai bien compris votre remarque, donc, qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité dans tout ça? Bon, je crois qu'il faut à la fois des critères clairs et capables d'être vérifiés, vérifiables. C'est important. Sinon, c'est un peu du n'importe quoi. Mais il faut quand même toujours savoir qu'aucun chiffre ne peut parfaitement reproduire une situation. Il faut une certaine flexibilité à beaucoup d'égards. Et un des aspects, c'est l'autre dimension des priorités thématiques. Intellectuellement, c'est très bien de dire, mais on va partout en Europe mettre pour la cohésion des thématiques que tout le monde suit, ou comme on a fait maintenant, qu'on énumère et on doit choisir un certain nombre de thématiques. Mais c'est partiellement, et le rapporteur l'a encore bien dit lors du débat sur notre avis, parfois c'est une vue d'esprit aussi. On doit mettre des priorités, il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi, mais la cohésion territoriale est en fait quelque chose qui est un peu en conflit avec ces priorités thématiques si on les voit trop technocratiquement. Parce qu'il faut que les choses soient cohérentes sur le terrain. Et là, il se peut que très souvent, des choses qui ne sont pas justement couvertes par les priorités thématiques sont cependant très importantes pour cette région à ce moment-là. Et alors, il faut pouvoir les faire et pas se voir éjecter du système parce que ça ne correspond pas à une priorité thématique. Mais pour résoudre ça, il faut surtout des instruments de programmation très fiables, très précis et des arguments bien développés pour dire pourquoi on veut faire ça et pas autre chose. C'est un peu comme ça que je dirais qu'il faut aborder ces questions. Et dernière remarque, le guichet unique, c'est une idée qui fait son chemin. Nous venons encore dans un contexte un peu parallèle, il y a quelques semaines, dans un avis que nous avons adopté en matière de l'entrepreneuriat dans les îles. C'était le sujet de ce qu'on avait fait à la demande de la présidence maltaise. Dans cet avis, une collègue de Corse, qui est aussi une île, a défendu avec force et avec de très bons arguments encore cette idée du guichet unique et ça ne m'étonnerait pas que ça revienne aussi dans les positionnements qu'on prend alors plus tard dans la politique de cohésion quand on va aller plus dans le détail.
Merci. Agora temos o CDS-PP, através da voz do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, a pergunta ao Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Karl-Heinz Lamberts. Antes de mais, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu creio que a sua intervenção inicial e depois todos os esclarecimentos têm sido do maior interesse. Permita-me que comece esta iniciativa fazendo uma referência que para nós em Portugal é da maior importância e tem a ver com o anúncio que esta semana foi efetuado em relação à saída do procedimento por déficit excessivo. Sempre entendemos que deveria ter saído mais cedo, teria sido possível ter saído pelo menos no ano passado. Entendemos também que o Governo não se empenhou tanto quanto podia nesse processo, mas nesta hora. O que interessa é que, depois do exigente processo de ajustamento estrutural a que também fez referência na sua intervenção, Portugal saiu de cabeça levantada. Terminamos com sucesso o programa, reabilitamos a nossa credibilidade internacional e recuperamos a nossa autonomia internacional, e isto, creio que é de reconhecer com toda a justiça, sobretudo ao povo português, que foi bastante sacrificado e que teve aqui claramente o papel principal. Dito isto, Sr. Vice-Presidente, o Sr. na sua intervenção fez muito bem em referir e em colocar a questão da Europa e a questão dos grandes desafios que se colocam, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, e integrar isto no âmbito da atividade do Comitê das Regiões Europeias. De facto, é com políticas de coesão efetivas e bem-sucedidas que nós conseguimos superar alguns desafios com que nos deparamos e que também fez referência, nomeadamente quanto ao crescimento do populismo e de projetos políticos desagregadores do projeto europeu. Eu creio que não será por acaso que é precisamente neste âmbito em que nós estamos a falar aqui hoje, nesta audiência, e a ouvir a Vossa Excelência, não será por acaso que é também nesta ocasião que não temos aqui a presença dos nossos colegas que protagonizam os projetos mais críticos e mais contrários ao projeto europeu, nomeadamente os partidos de extrema-esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda. Enfim, não questiono que naturalmente não estão aqui porque têm outras obrigações, mas naturalmente que isso vai ao encontro também das prioridades de cada um. E é neste sentido, Sr. Vice-Presidente, que nós gostaríamos precisamente de colocar as questões no âmbito daquilo que é a atividade do organismo a que Vossa Excelência proximamente irá presidir. E começaria justamente pela sessão plenária número 123 que ocorreu do Comitê das Regiões, que ocorreu recentemente, no dia 11 de março, e num dos documentos aprovados nesse plenário considera-se da maior importância efetuar uma análise exaustiva dos requisitos definidos para o sistema de gestão e de controlo dos fundos europeus estruturais e de investimento. E diz-se ainda também que é fundamental aumentar significativamente a visibilidade das intervenções da política de coesão através de ações de comunicação adequadas. Eu gostaria muito que, se tivesse aqui a oportunidade, desenvolvesse este tópico que foi considerado da maior importância para a atuação do Comitê. Ainda no domínio da coesão, e tendo em conta que as disparidades entre regiões registaram um agravamento mais desproporcional do que aquelas que se verificaram entre países, e este é um dado que nós não podemos contornar, pergunto-lhe que impulso deve ser dado ao nível nacional e local para atalhar de forma mais eficaz os desafios específicos das diferentes regiões, tanto no âmbito social como no âmbito territorial. E, finalmente, também porque não temos muito mais tempo, eu, de resto, também queria já antecipar o meu pedido de desculpas, mas tenho que intervir numa outra comissão que está a decorrer ao mesmo tempo e, portanto, não poderei ficar até ao final da reunião, mas a seguir aos esclarecimentos desta questão terei que ausentar. Mas não queria deixar de falar e trazer à discussão o programa Horizonte 2020 e a comunicação da Comissão sobre Investigação e Inovação. Entendemos que tanto um como o outro constituem instrumentos únicos para o relançamento das políticas de investimento, investigação e desenvolvimento da União. Aliás, tema também que foi trazido aqui por colegas meus. O Programa Quadro Horizonte 2020 é um oitavo Programa Quadro, como se sabe, para a ciência e inovação, e a nosso entender este é muito mais ambicioso do que o sétimo, porque cobre todo o ciclo da inovação, ao passo que os outros centravam-se mais na investigação científica e desenvolvimento tecnológico. É importante para a Europa, mas é crucial para Portugal, cujo investimento em ciência e inovação está muito dependente do financiamento europeu, especialmente em períodos de crise como aqueles que vivemos. e por isso pergunto-lhe de que maneira é que o programa Horizonte 2020 tem contribuído para facilitar as regiões mais afastadas do centro da Europa e instituições que não gozam de um grande prestígio no acesso a financiamento e apoio comunitário. E que balanço é possível fazer do aproveitamento dos fundos por parte de Portugal no contexto do Horizonte 2020, sabendo que 2014 e 2015 foram anos particularmente positivos nesta área? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões para a resposta.
Merci beaucoup aussi pour vos questions. Tout d'abord, sur la fin de la procédure de l'excessif, je crois que c'est un événement très heureux pour le Portugal. Vous comprendrez évidemment que je ne prendrai pas position sur la question de savoir si le gouvernement a fait trop peu ou trop. Ça, c'est une discussion que vous êtes vraiment à 100% capable de mener entre vous ici et je ne vais pas m'immixer là-dedans. Mais j'ai suivi avec une certaine précision les efforts que le Portugal a fait ces dernières années et je dois dire que j'ai assez admiré la volonté qui était derrière tout ça et aussi au-delà des divergences politiques évidemment quand même aussi comme pour les régions périphériques une certaine volonté commune d'avancer et ça c'est très important et c'est vrai que nous devons arriver en Europe à maîtriser convenablement ces aspects qui sont liés à la politique budgétaire. On ne peut pas avoir une monnaie commune sans intégrer davantage d'autres aspects de la politique. Et la politique budgétaire est un aspect. C'est d'ailleurs pour ça que le nouveau président français a présenté à Mme Merkel l'idée d'avoir un ministre des finances communes à l'eurozone. Ça va un peu dans ce sens, tout cela là, tout ce genre de choses. Mais évidemment, il faut arriver à combiner les aspects, un peu comme j'ai dit tantôt avec mon triangle. Si on voit uniquement les critères de convergence et on ignore tout le reste, et si on fait uniquement une politique d'austérité et ne parvient pas à préserver aussi la capacité d'investissement, les choses risquent de ne pas bien se passer. Donc il faut des compromis subtils et délicats. Et en tout cas, je crois que pour le Portugal commence en tout cas maintenant une nouvelle phase. Et je peux en parler vraiment à l'aise aussi parce que j'ai connu exactement la même chose pendant le temps où j'étais ministre-président de ma région en Belgique. On a eu ces mêmes débats avec la Commission parce que la Belgique était aussi menacée par une procédure de déficit excessif. Elle est d'ailleurs toujours concernée fortement par le débat sur l'endettement important que notre pays a toujours. Donc là, il faut à la fois une rigueur et une certaine flexibilité, en tout cas dans le temps et suivant les circonstances. Et il faut arriver aussi à faire des vrais efforts en commun. Parce que là, il faut savoir aussi que dans tous ces débats-là, en Europe, nous avons des pays qui prêtent de l'argent et d'autres qui en reçoivent. Et ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Et là, nous avons par exemple la critique qu'on fait à l'égard de l'Allemagne d'avoir des excédents de balance de commerce trop importants. Bon, tout ça doit un peu, je dirais, évoluer dans une certaine zone, dans une certaine fourchette, pour que les choses en Europe se développent bien un peu partout. Sans que ça soit la même chose, évidemment, dans tous les pays. Ça c'est donc pour ce problème-là. Alors, c'est vrai que la visibilité des investissements financés par l'Union européenne doit être améliorée, parce que quand quelque chose va bien, et quand on reçoit de l'argent, les gens disent toujours « c'est moi qui a fait ça ». Et quand ça ne va pas, on dit « ah, ça c'est l'Europe ». Il faut un peu être un peu plus équilibré là-dedans. Mais il faut savoir aussi que la solidarité qui est derrière les fonds structurels, c'est quelque chose qui n'est pas à sens unique. Même les pays contributeurs bénéficie très considérablement, si on voit les études, de l'argent qui est distribué et investi ailleurs, parce qu'il y a des retours, il y a des améliorations de tout genre. Et faire disparaître un maximum de disparités, ça c'est un des objectifs de la politique de cohésion, mais il faut aussi arriver à une certaine spécialisation. Je crois que on ne doit pas avoir à la fin une Europe où tout se passe de la même façon partout, où tout le monde fait la même chose, parce qu'alors on n'a pas assez de diversité et des possibilités d'échange. Le mieux, c'est qu'on permet à chacun de devenir le champion dans quelque chose et d'échanger. Alors, ça, c'est une Europe comme moi, je veux l'avoir. Et là, Horizon 2020, donc les politiques en matière de recherche et d'innovation sont excessivement importantes. Nous sommes à l'aube d'une énorme révolution industrielle, économique, informatique. Je crois qu'on ne se rend pas encore compte des changements qui nous attendent. Et on vient encore de le vivre très concrètement ici. Bon, chez nous en Belgique, le système Uber avec les taxis existe aussi, mais il n'est pas encore aussi développé qu'ici à Lisbonne. On a passé maintenant 2 jours en jouant avec ça ici, d'une manière beaucoup plus moderne et plus technologique qu'on le fait chez nous en Belgique, et c'est passionnant. Mais on est plein de ce genre de changements partout, et les populations doivent pouvoir assumer ça, et il faut que ça se passe d'une façon telle que l'ensemble de la population y voit aussi une source d'enrichissement et d'amélioration de sa situation. C'est extrêmement compliqué, mais c'est passionnant, et c'est le devenir, et les programmes de recherche comme Horizon 2020 sont des possibilités d'accompagner, d'impulser ce genre d'évolution. Et là, je partage tout à fait votre analyse, qui est de dire il ne faut pas réserver ces fonds-là à un club restreint de quelques grosses têtes dans quelques universités ou dans quelques centres de recherche de groupes industriels puissants. Il faut que ce soit large d'accès, que les possibilités pour les créateurs d'entreprises et pour les structures beaucoup plus petites soient aussi effectives. Et pour ça, il faut évidemment que la lourdeur, notamment des demandes dans le cadre de Horizon 2020 soient réduites. Elles ont déjà été réduites, mais ça reste toujours extrêmement compliqué d'entrer un dossier Horizon 2020. Et là, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, l'Europe a aussi à gagner beaucoup, à devenir plus pragmatique, moins bureaucratique, tout en sachant qu'il faut quand même garder un minimum d'éléments formel aussi pour éviter les abus de tout genre qui sont évidemment un enjeu aussi, mais même les procédures les plus compliquées n'arrivent pas à éviter toutes les formes d'abus.
Merci beaucoup, Monsieur Karl-Heinz Lamberts. Passamos agora à segunda ronda. Estão inscritos os 2 grupos parlamentares, PSD e PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar muito especialmente aqui o Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões. Acho que é muito importante haver este diálogo entre as instituições, realmente dando aso ao antigo projeto de Delors, da Europa das Regiões, e realmente para colocar a melhor maneira de como aproximar as políticas melhores a nível europeu junto do cidadão. E dentro deste âmbito, deste diálogo entre as instituições, não vou-lhe colocar perguntas excessivamente concretas sobre a política relativamente às regiões ultraperiféricas, mas é importante sublinhar o papel de aliado que o Comitê das Regiões tem desempenhado junto das regiões ultraperiféricas, mas são mais apelos concretos que gostaria de deixar com o Sr. Vice-Presidente, também depois no seu regresso ao Comitê das Regiões, para aprimorar realmente esta perspectiva das regiões ultraperiféricas junto do Comitê das Regiões. E Em primeiro lugar, gostaria de congratular também o facto que ainda recentemente, em maio, a iniciativa, portanto, foi apontado o relator da iniciativa sobre a comunicação da Comissão sobre o âmbito do artigo 349, que diz respeito às regiões ultraperiféricas. Portanto, o Comitê das Regiões já apontou um relator para para esta iniciativa e é de saudar que também seja um representante das regiões ultraperiféricas e que não como no passado, quando já foi, por exemplo, alguém que não teria essa ligação direta às regiões ultraperiféricas. Portanto, aguardamos também com muito interesse também esse posicionamento sobre essa marca importantíssima relativa ao processo do artigo 349 das regiões ultraperiféricas. Também concretamente, um apelo que também gostaria de deixar tem a ver com o facto que o Comitê das Regiões não se pronunciou sobre o relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre as pescas das regiões ultraperiféricas. E acho que aqui também seria interessante também ter a sensibilidade também do Comitê das Regiões para as regiões ultraperiféricas, que faz parte do ADN também do Comitê das Regiões e que, infelizmente, na iniciativa do Parlamento, no relatório do Parlamento Europeu, a eurodeputada relatora, lamentavelmente, não assumiu a parte do financiamento das frotas das regiões ultraperiféricas no âmbito das pescas, que é uma área muito específica e não é de pescas de larga escala, como nós conhecemos, portanto é uma especificidade ultraperiférica e aí lamentamos não haver essa questão de financiamento das frotas. E também uma última nota, um último apelo que também deixaria com o Sr. Vice-Presidente, tem a ver com o setor dos transportes e a necessidade de alertar sistematicamente também para um tratamento diferenciado em termos de auxílios de Estado para as regiões ultraperiféricas no âmbito dos transportes, que seja aéreos, seja marítimos, devido ao condicionamento natural das regiões ultraperiféricas, que tem a ver com a questão de dimensão e de mercado, que justificam, mais do que justificam, uma necessidade de diferenciação do tratamento dentro destes domínios. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Vice-Presidente do Comitê das Regiões, eu queria pedir alguns comentários, não necessariamente respostas diretas, conforme referi, não querer ou não poder dá-las, mas alguns comentários relativamente a algumas questões que julgo importantes. A primeira tem a ver com a circunstância de ter sido falado por si mesmo aqui nesta audição que era relevante abordarmos a questão da flexibilidade na aplicação do PEC, do Plano de Estabilidade e Crescimento, e eu queria que comentasse a circunstância de quando apareceu o Plano Juncker, não é? Um plano auspicioso, que de alguma forma também entusiasmou muitos países, mas que quando foi apresentado tinha algo que parecia um bocadinho paradoxal face àquilo que era o interesse dos países, designadamente os países menos desenvolvidos e os países com mais necessidade de investimento, que era a circunstância de ter supostamente havido uma grande conquista, que era o investimento não contar para o déficit, mas depois ter havido uma particularidade, é que o investimento só não contava para o déficit para os países que tivessem déficit abaixo dos 3%. Ora, isto é aparentemente um paradoxo e eu gostaria de que comentasse esta circunstância. A segunda nota que queria que comentasse tem a ver com a crise económica que tivemos nos últimos anos, que estamos ainda a passar, teve consequências grandes, algumas mesmo violentas, em países como a Grécia, como Portugal, como Espanha também, Turquia, Irlanda. Digamos que todos esperávamos que a política de coesão tivesse um efeito importante na ajuda a ultrapassar esta crise, ligadamente das desigualdades, os problemas sociais e por aí fora. Ora, a pergunta é, ou o comentário é, se acha que as opções que foram tomadas no quadro da política de coesão, que basicamente se cingiu à alteração das taxas de cofinanciamento, aumentando para os países que precisavam de mais investimento, ou mesmo a reprogramação dos fundos, ajudaram a mitigar o impacto da crise, e se acha que foi suficiente ou que se poderia ter ido mais além nessa matéria para ajudar esses países. Uma última questão que gostaria de deixar tem a ver com a questão das ilhas, de facto. Há movimentos na União Europeia relativamente a grupos que se querem constituir para formar polos de pressão a favor das ilhas, mas eu queria dizer que as regiões ultraperiféricas, e o Sr. Vice-Presidente comentou, bom, as Madeira e os Açores também são ilhas, é verdade, também são ilhas, mas têm um estatuto diferente. Têm um estatuto diferente, consagrado nos tratados da União Europeia, e uma das razões fundamentais tem a ver com a distância dos centros de decisão, com a grande distância que têm dos centros de decisão e o impacto que isso tem, naturalmente, no seu desenvolvimento e na forma como encaram esse mesmo desenvolvimento e na forma como podem explorar as suas potencialidades. Portanto, são questões bastante distintas e eu parece-me importante que o Comitê das Regiões tenha esta matéria bem consagrada, porque não gostaríamos nada de estar a discutir o esvaziamento deste estatuto de região ultraperiférica, porque ele é factual e há condições para o demonstrar e para demonstrar isso mesmo. Finalmente, só para deixar uma outra nota, para lhe perguntar, no relatório ou no parecer do Comitê das Regiões sobre o pós-2020, há uma nota sobre a questão da burocracia na aplicação dos fundos estruturais e da necessidade da simplificação administrativa dessa aplicação. Ora, eu acho que há aqui um grande desafio e eu queria ter um comentário seu sobre isto, que é como é que se consegue, como é que aumentar a transparência, reduzindo a complexidade, que é de facto aquilo que interessa, e colocando no centro de tudo isto o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado. Sim, também podia ser.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para a intervenção final o Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões. Muito obrigada.
E merci beaucoup. Como il s'agit d'une intervention finale, j'ai en tout cas le privilège de pouvoir raconter n'importe quoi parce que plus personne ne saura répondre, mais je ne vais pas abuser de cette possibilité-là. En tout cas, ce qui m'impressionne beaucoup dans vos remarques depuis le début d'ailleurs, c'est que vous avez déjà étudié toutes ces questions avec beaucoup de précision, de détails. Bon, ce n'est pas la première fois que j'assiste à une réunion de ce genre et j'ai vu des situations où on parlait beaucoup moins en connaissance de cause que vous le faites ici. Et ça, je le trouve vraiment très bien parce que si on veut que l'Europe évolue, si on veut qu'elle soit une réponse aux problèmes dont on s'occupe, il faut évidemment que ça se concrétise aussi par les détails. Il ne suffit pas de dire quelques beaux mots de l'Europe pour que tout soit bien. Il faut que les détails soient vraiment pris en considération. Et là, bon, pour les différentes questions que vous deux avez posées sur les situations des îles et des régions périphériques, là, je crois qu'il est indispensable qu'on continue à reconnaître cette particularité et que l'Union européenne soit aussi d'accepter certaines situations, je dirais, dérogatoires ou des règles particulières sans qu'on puisse faire n'importe quoi. Mais c'est vrai, une île est d'abord une île, ça a des conséquences, et les distances comme celles qu'on a, par exemple, par rapport à Madère, ce sont des distances qui se calculent en heures de vol, donc c'est vraiment très réaliste. Et la communication, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est aussi un peu le problème des régions de France qui se trouve en Amérique. Communication dans toutes ses dimensions, matérielles, mais aussi télécommunications, tout ça doit être, plus on est loin, mieux il faut être raccordé en réalité. Et l'argument, mais ce ne sont que quelques personnes, ce n'est pas une métropole, ce sont des arguments qui sont souvent utilisés, mais contre lesquels il faut se battre, tout en sachant qu'il faut arriver toujours à la fin à des compromis. Et je n'ai pas parlé de la pêche tantôt, parce que, pour être tout à fait honnête, je connais beaucoup trop peu le dossier de la pêche pour dire des choses vraiment sensées, mais nous avons déjà à plusieurs fois au comité des régions ont pris des positions sur la pêche. Je me souviens d'ailleurs que c'était des débats très, très houleux et très controversés quand on a discuté de ça, mais je me rappelle plus de tous les détails. Mais pour l'instant, je ne crois pas que nous avons un avis sur la pêche qui est en fabrication, mais nous allons... Oui, je sais bien, chez nous. Mais je vais profiter de votre remarque pour demander à mon collaborateur de s'informer en détail si quelque chose va arriver chez nous au comité des régions aussi, et on va un peu voir ce qui se fait au Parlement européen. En tout cas, ça je peux le dire aussi parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion dans ma vie de rencontrer des pêcheurs dans des situations très particulières. Enfin, ma dernière expérience date de la petite île de Gozo à côté de Malte avec des pêcheurs un dimanche matin. J'ai discuté une fois 2 heures avec eux. Ça m'a beaucoup impressionné quand ils m'ont expliqué toutes les conséquences de l'Union européenne sur leur vie et aussi leurs conditions de vie qui sont vraiment pas toujours très simples. Donc, mais là, on va s'informer pour ceux qui connaissent exactement, et en tout cas, c'est certain que quand il y aura un sujet concernant la pêche qui réapparaît au niveau européen, il passera nécessairement par le comité des régions parce qu'ils doivent nous consulter et il y a toujours un grand intérêt à ce moment-là. Et il faut en effet que dans ces situations-là, qu'on essaie de trouver des rapporteurs qui aient aussi un rapport avec le sujet, encore que... Il faut évidemment connaître les règles de distribution des rapports, c'est assez compliqué aussi, mais il est mieux que quelqu'un qui fasse un rapport ait aussi un lien personnel, mais ce n'est pas indispensable. On peut aussi faire des bons rapports sur des situations dont on n'est pas concerné soi-même. Parfois, c'est même une façon d'objectiver les choses, mais en toute hypothèse, ce qu'il faut garantir, c'est que les intérêts des personnes concernées soit correctement prise en considération et intégrée dans un rapport. Mais faire un rapport sur une situation périphérique ou de pêche ou je ne sais pas quoi, sans qu'on ait des contacts vraiment avec les gens concernés, ça c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Et on essaie quand même souvent dans les attributions de rapports de tenir compte aussi de l'intérêt et de l'engagement et de la motivation, parce que nous voulons de plus en plus au comité des régions pas nous limiter à faire un rapport. On fait tellement de rapports en Europe que qu'on en a parfois trop. Moi, je veux vraiment pousser les rapporteurs à continuer leur travail après le rapport. Je dirais même que le vrai travail commence à ce moment-là. On a fait un rapport et maintenant, je dois essayer que les conclusions du rapport deviennent réalité. Alors, je dois prendre mon bateau de pèlerin, aller au Parlement européen, aller à la Commission, au Conseil des ministres ou dans la comitologie, à ce niveau-là, avec des stakeholders et avec des personnes intéressées, faire évoluer les choses. Et là, évidemment, quelqu'un qui est partie prenante, il fait ça tout à fait différemment que quelqu'un qui a vu ça d'une manière un peu, je dirais, académique. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important. Venons-en aux inégalités et au pacte de stabilité. La disparition des inégalités, plus d'équité sociale, est un élément fondamental pour la réussite de l'Union européenne. Nous devons avoir une économie très performante, mais nous devons aussi avoir une société juste et qui donne les chances à tout le monde, notamment par l'éducation, et qui contribue à éliminer les injustices. D'ailleurs, la commissaire Thyssen l'a dit encore très clairement il y a quelques jours lors d'une conférence de presse de la Commission, notamment sur les semestres européens. Elle a dit qu'on a un certain redressement en Europe, mais c'est un vrai motif pour aller plus loin dans les engagements sociaux. Et Juncker, l'actuel président de la Commission, a reçu en 2006 le prix Charlemagne à Aachen, avec le Chapel, un grand prix européen, en 2006, juste avant la crise. Et alors il dit dans son grand discours qu'il a tenu ce jour-là, je n'oublierai jamais ça, Si nous n'arrivons pas, dans les 10 années à venir, à faire de l'Union européenne, qui est un succès économique, on pouvait vraiment le dire, surtout avant la crise, aussi une union sociale réussie, alors l'Europe va échouer. Il a dit ça en 2006, en mai 2006. Je ne suis pas sûr qu'en mai 2016, cet objectif était déjà réalisé. Et je me réjouis d'ailleurs beaucoup du sommet qui va se tenir le 17 novembre de cette année-ci à Göteborg, où on va justement discuter de la politique sociale européenne. C'est très important, tout comme il est très important que nous ayons une économie performante et orientée vers le futur et l'innovation, et que nous ayons aussi un pacte de stabilité qui renforce nos capacités d'investissement en assainissant aussi nos finances publiques, parce que là, il y a des choses dans le passé qui ont été faites qu'il faut corriger. Mais il faut faire ça toujours avec beaucoup de pragmatisme et de raison. Et le plan Juncker était une bonne initiative. Ce n'était pas sûr qu'il réussisse. Il y a des succès, mais c'est tout à fait exact aussi, et personne ne peut le contester, qu'on n'a pas encore réussi vraiment tous les objectifs, parce que la plupart des investissements du plan Juncker se font dans les États qui sont déjà assez performants, et beaucoup d'investissements probablement auraient été aussi faits si on n'avait pas eu le plan Juncker. Donc ça c'est une faiblesse, il faut corriger ça, il faut essayer de faire encore des choses avec plus de valeur additionnelle. Et on a eu beaucoup de discussions avec la Banque européenne d'investissement à ce sujet-là, à plusieurs niveaux, avec tout notre bureau, avec notre conférence des présidents. J'ai vu moi-même plusieurs fois le patron de ça et les collaborateurs. Mais c'est vrai aussi que dans le plan Juncker, il manque parfois aussi les projets. Et il faut peut-être davantage encore apprendre à des gens, à des entrepreneurs, à des jeunes qui veulent faire évoluer, à des collaborateurs de services d'encadrement, de monter convenablement des projets. Ce n'est pas toujours très simple, mais là, il y a encore des choses à faire et on n'est pas à la fin de notre chemin. Je crois qu'on a juste commencé à marcher et, comme je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas la vitesse, l'essentiel, c'est la bonne direction. Et merci beaucoup pour le dialogue que j'ai pu avoir avec vous. Ça m'a beaucoup fait plaisir et Julien a tout noté et on ne va rien oublier de tout ça quand on sera de retour à Bruxelles.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Vice-président du Comité des Régions. C'était pour nous très important d'écouter votre opinion et votre expérience envers la direction que l'Union européenne doit faire dans le prochain futur. Nous avons ici des préoccupations, comme vous avez constaté, avec la croissance et la juste croissance pour que la justice sociale à l'Union sera une réalité. Nous sommes très fiers de notre pertinence à l'Union européenne et on fera, je pense, que tous les efforts pour que l'Union européenne soit plus solidaire et plus juste. Mais une fois, muito obrigada pela sua disponibilidade, Sr. Vice-Presidente. Esta audição foi feita num momento muito importante dos desafios europeus e do nosso caminho para o aprofundamento do projeto europeu. Agradecemos muito a forma entusiástica com que nos falou do futuro de uma União mais justa e mais solidária e das respostas às questões muito concretas que foram postas pelos nossos deputados desta Comissão e de outras comissões que se juntaram a nós num primeiro momento. Agradecemos esta a sua disponibilidade e desejamos um bom regresso à Bruxelles. Nous avons un petit souvenir de l'Assemblée de la République. Porvoo, que symbolise un peu notre... Oui, c'est une pièce de porcelaine, je pense qu'il y a ici. C'est une reproduction d'une peine used by the President Manuel de Arriaga to sign the political constitution of the Portuguese Republic.
En 1911.
Oui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ça me fait grand plaisir. Comme ça, j'ai un souvenir permanent de mon passage ici. Et
merci.
Je vous souhaite en tout cas encore des bons travaux.